VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 26 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Tout d'abord, les titres.
Le président américain Donald Trump qualifie de blague la procédure lancée par l'opposition démocrate pour le destituer.
Nous retrouverons notre correspondante à New York, Dilly Dico, pour les derniers échos de la 74e Assemblée générale de l'ONU.
En Côte d'Ivoire, aucun représentant du PDCI, le principal parti d'opposition, ne fait partie des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante dévoilée hier.
En Guinée, 10 ans après le massacre du stade de Conakry, les familles attendent toujours qu'on leur rende justice, déplorent des ONG.
En RDC, l'OMS annonce une campagne de vaccination d'urgence contre la rougeole dans 6 provinces.
En Israël, le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a été choisi pour former le prochain gouvernement.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Nous commençons par les États-Unis où l'actualité continue d'être dominée par l'affaire ukrainienne. Le président Donald Trump a contesté mercredi toute irrégularité après la publication du contenu d'un échange dans lequel il demande à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden. Pas de pression, rien du tout, a martelé M. Trump. Le point avec Jean-Roger Bion.
De nouveaux développements dans cette affaire sont attendus ce jeudi avec l'audition par le Congrès du directeur par intérim du renseignement national, Joseph Maguire, qui avait d'abord refusé de transmettre aux parlementaires américains le signalement à l'origine du scandale rédigé par un lanceur d'alerte, membre des services de renseignement. Dans la transcription de l'échange téléphonique au cœur des tensions, que la Maison-Blanche a fini par publier mercredi, le président Trump évoque avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le nom de Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 et les affaires en Ukraine de son fils Hunter. Cet échange accablant de l'avis de l'opposition met en difficulté M. Trump, désormais menacé par une procédure de destitution explosive. Il est resté sur la défensive et a tenté de balayer les critiques en évoquant une chasse aux sorcières sans fin. Une destitution pour ça, c'est une blague, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à New York. Les démocrates soupçonnent le président républicain d'avoir gelé une aide de près de 400 millions de dollars destinée à Kiev pour forcer le président ukrainien à l'aider face à un possible rival démocrate en 2020.
Poursuite à New York du débat général à la 74e Assemblée générale de l'ONU, le programme d'aujourd'hui et les interventions d'hier à la tribune des Nations Unies avec notre correspondante Lily Dico.
Au programme de cette troisième journée de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le discours du président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi prendra la parole ce jeudi pour son premier discours à la tribune des Nations Unies. Le président congolais, élu en janvier, a déjà donné le ton de son discours puisqu'il s'est dit favorable à ce que la mission onusienne en RDC reste dans le pays, une ouverture qui contraste avec la vision de son prédécesseur. Également au programme d'aujourd'hui, mais cette fois dans l'après-midi, l'intervention du chef d'État camerounais, mais aussi celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Toujours au plan africain, la journée d'hier a été marquée par le discours du président de la République centrafricaine, mais également celui du chef d'État malien, très attendu en raison de la situation sécuritaire dans son pays et dans le Sahel. Dans son allocution, le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis en avant le multilatéralisme, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, en soulignant les défis auxquels le Mali fait face depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Faustin Archange Touadéra a quant à lui parlé des progrès modestes mais sûrs dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en février dernier. Côté international, c'est l'intervention du président iranien Hassan Rouhani qui a retenu l'attention. Il a refusé mercredi toute négociation avec les États-Unis tant que les sanctions contre Téhéran ne seront pas levées.
Toujours à l'Assemblée générale de l'ONU, le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a dénoncé hier les ingérences de pays étrangers en Libye et a qualifié son adversaire, Khalifa Haftar, de criminel assoiffé de sang. Il s'en est pris spécifiquement aux Émirats arabes unis, à la France et à l'Égypte. L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a lancé début avril une offensive militaire pour s'emparer de la capitale, Tripoli, contrôlée par Fayez al-Sarraj, que soutiennent le Qatar et la Turquie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la liste des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante chargée d'organiser la présidentielle de 2020 a été dévoilée hier. C'était à l'occasion d'un conseil des ministres exceptionnel tenu à Dimokro, à 200 km au nord d'Abidjan. Aucun membre du principal parti d'opposition, le PDCI, qui refuse la nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition. La société civile et l'opposition qui réclamaient une réforme de la commission et, je cite, « une CEI équilibrée » ont critiqué la nouvelle organisation qu'elles estiment similaire à la précédente.
Six associations guinéennes et internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé hier le fait que, 10 ans après le massacre dans un stade de Conakry, les familles des victimes attendent toujours justice. Le point avec Michel Joseph.
Le ministre guinéen de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, a assuré que la volonté politique d'organiser ce procès est sans équivoque, mais que le pays est confronté à des difficultés pratiques en passe d'être réglées. L'instruction est clôturé depuis fin 2017, mais la date du procès n'a pas été fixée. Les juges non plus n'ont pas été désignés et certains survivants sont déjà décédés. 10 ans après, les familles des victimes attendent qu'on leur rende justice, soulignent les 6 organisations de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch et Amnesty International. Le 28 septembre 2009, selon une enquête de l'ONU, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte de l'époque.
Mali, le ministre des Affaires étrangères, Kébilé Dramé, a cherché hier à calmer le jeu en appelant la CEMA à revenir sur sa décision de suspendre sa participation à un dialogue national en faveur de la paix. Selon lui, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a eu aucune intention de remettre en cause les grands principes de l'accord d'Alger. La coordination des mouvements de l'Azawad avait évoqué mardi de récents propos de M. Keïta, ouvrant la porte, selon elle, à une rediscussion de certains termes de cet accord de 2015, censé ramener la paix.
Au Nigeria, exécution d'un travailleur humanitaire nigérian enlevé en juillet avec 5 autres personnes par un groupe djihadiste dans le nord-est. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'ONG française Action contre la faim, dont les bureaux ont été fermés par l'armée la semaine dernière.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier avoir lancé une campagne de vaccination d'urgence dans 6 provinces de la République démocratique du Congo contre une épidémie de rougeole. À la date du 17 septembre, 183 834 cas suspects de rougeole, dont 5 989 confirmés, ont été notifiés dans 192 zones de santé, dont 3 667 morts, en majorité des enfants, soit plus que le nombre de décès d'Ebola, a écrit l'OMS dans un communiqué.
En Israël, le président Reuven Rivlin a demandé hier soir au premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, de tenter de former le prochain gouvernement après des législatives qui ont plongé le pays dans une impasse politique. Les précisions de John Lyndon.
La responsabilité de former le prochain gouvernement sera donnée au premier ministre et leader du Likoud, Benjamin Netanyahou, indique la présidence israélienne. Monsieur Netanyahou, avec ses alliés de droite et des partis religieux, compte pour l'instant 55 sièges sur les 120 du Parlement. Et le centriste Benny Gantz, avec les partis de gauche et les partis arabes, rassemble 54 députés. Aucun n'est parvenu pour l'instant à obtenir la majorité absolue de 61 députés. Choisi pour former le prochain gouvernement, Benjamin Netanyahou a tendu la main hier soir à son rival Benny Gantz, lui demandant de le rejoindre dans un cabinet d'union. Offre immédiatement rejetée par Benny Gantz dans une publication faite sur Facebook. Il serait hors de question pour lui de participer à un gouvernement dirigé par un premier ministre menacé d'inculpation, allusion faite à toutes ces affaires de fraude et malversations qui planent sur la tête de Benjamin Netanyahou et pour lesquelles il doit être entendu par la justice.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement capverdien attribuera aux sociétés télécom Civimobile et Unitel T+ la licence pour offrir des services 4G aux consommateurs. Ces services permettront aux populations d'accéder à une connexion Internet à haut débit et d'avoir des services de téléphonie mobile améliorés et des appels vidéo de haute qualité. L'offre de la 4G est le fruit d'un accord stratégique à moyen terme signé entre le Cap-Vert et Huawei qui aidera également le pays à tester la technologie 5G. Le Sénégal recevra 22,5 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour soutenir les petites et moyennes entreprises en vue de créer plus de 1000 emplois en zone rurale, surtout pour des jeunes, et promouvoir l'autonomie des femmes. Ce projet devrait aussi contribuer à réduire les importations de denrées alimentaires et participer à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Au Sénégal, les PME représentent environ 80% du tissu des entreprises, contribuent à 30% au PIB et emploie près de 60% de la population active. Pour terminer, en Afrique du Sud, la compagnie minière Sibanye-Stillwater annonce la suppression de près de 6 000 emplois sur son site de Macarena dans le nord du pays. Ces suppressions qui touchent 3 904 salariés et 1 366 contractuels sont dues à la restructuration de la mine de platine pour cause de pertes financières, plusieurs puits ayant atteint leur fin de vie à Marikana. Ce site est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois miniers du pays.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Égypte demande des comptes à la FIFA.
Oui, la Fédération égyptienne de football se plaint de la non-prise en compte des votes de son sélectionneur et de son capitaine pour la nomination du meilleur joueur de l'année. Les résultats pour l'élection du FIFA Best Player, remporté par Lionel Messi, ont été publiés et Mohamed Salah n'a fini que quatrième. Le vote du sélectionneur de l'équipe olympique Shawki Gharib et celui du capitaine Ahmed El Mohamadi ne sont pas mentionnés dans la publication des votes. Tous les deux ont placé Salah en tête à sur la fédération. Le seul vote venant de l'Égypte qui a été publié vient du journaliste Annie Daniel, qui a préféré le Sénégalais Sadio Mané, équipier de Salah à Liverpool, ce dernier n'étant que le troisième choix du journaliste, derrière le Portugais Cristiano Ronaldo. En réaction, la star égyptienne a changé sa bio sur Twitter, mentionnant jouer pour Liverpool, mais plus pour sa sélection nationale.
Fawzi Benzarti n'est plus l'entraîneur de l'Étoile du Sahel.
Le technicien tunisien a jeté l'éponge à quelques jours du match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions contre la Chanté Kotoko du Ghana. Cette démission intervient suite à l'élimination de l'Étoile du Sahel de la Coupe des clubs arabes face à Shabab de la Jordanie en 32e de finale. Benzarti est critiqué depuis quelques semaines en raison des contre-performances de son équipe. Lors des 5 dernières rencontres, le club tunisien a enregistré 4 défaites et un match nul. C'est donc sans Benzarti, qui avait rejoint le club de Sousse en provenance du Wydad Athletic Club, que l'Étoile du Sahel tentera de renverser la vapeur ce week-end devant la Santé Kotoko. On le rappelle, à l'aller, les Ghanéens s'étaient imposés 2-0. Rafik Mwandi va assurer l'intérim.
Un mort dans des affrontements entre supporters au Maroc.
Un groupe de supporters du Wydad Casablanca a intercepté un véhicule transportant des fans de l'AS Far Rabat, lui jetant des pierres avant que la situation ne dégénère en affrontement. Selon un communiqué officiel, ces affrontements sont survenus près de Casablanca après un match de la Coupe du Trône marqué par une défaite du Wydad 1-3. Une personne a été tuée et 5 autres blessées. 6 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans ces violences. Les affrontements entre supporters de football sont récurrents au Maroc où 2 fans ont trouvé la mort en mars 2016.
Trophée des champions, une nouvelle initiative de la Fédération camerounaise de football.
La FECAFOOT organise pour la toute première fois une sorte de supercoupe qu'elle nomme le Trophée des champions. Cette coupe permettra de lancer la nouvelle saison sportive 2019-2020. Et pour cette première, la rencontre va opposer le champion de la Ligue 1, l'USM de Loum, au vainqueur de la Coupe du Cameroun, le Stade Arena de Melong. Le match est prévu pour le 13 octobre au Stade Quinconque de Bafoussam.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès a décidé cette semaine d'ouvrir formellement une enquête pour une mise en accusation à l'encontre du président Donald Trump. Il s'agit de la première étape d'une procédure pour destituer le chef de l'exécutif américain. L'opposition démocrate accuse M. Trump d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine pour discréditer l'ancien vice-président Joe Biden qui brigue l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. John Linden a joint hier, ici à Washington, Brett Brune, président de Global Situation Room, pour une analyse.
Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, nous avons la Chambre des représentants qui pourrait commencer le processus et il est probable qu'ils vont voter en faveur d'envoyer le processus au Sénat. Mais c'est au Sénat où il faut prendre la décision si ou non on va prendre cette action d'enlever le président de sa position.
Et qu'est-ce qu'on reproche à Trump?
C'est sa conversation avec le nouveau président de l'Ukraine où il a demandé, et en fait je viens juste lire le document, la conversation qu'il a eue avec le président de l'Ukraine, où il a demandé plusieurs fois que ce président ukrainien fait une investigation sur le fils Joe Biden, l'ex-vice-président des États-Unis et un candidat pour la présidence maintenant, que le président de l'Ukraine fait une investigation sur les actions de Joe Biden, de son fils, et il l'a répété plusieurs fois, et pour les démocrates au Congrès, cette action représente une violation de la loi, une violation de la confiance qu'on fait au président pour garder la sécurité des États-Unis au lieu de faire sa propre politique dans la Maison-Blanche.
Alors, vous parlez de Joe Biden. Est-ce que l'ouverture de cette enquête ne va pas plutôt pénaliser l'ancien vice-président américain et partant le Parti démocrate?
Bien sûr, il y a un risque que c'est ce qui va sortir des différentes allégations, les différentes histoire de ses actions en Ukraine ailleurs pourrait être pas vraiment positive pour Biden, mais en même temps, je crois que l'emphasis va être plutôt dans cette conversation où le président Trump a fait la pression sur un nouveau président en Ukraine.
Si au finish, l'enquête détermine effectivement que Donald Trump a été fautif, une destitution est-elle vraiment possible, sachant que ce sont les républicains qui contrôlent le Sénat?
Bien sûr, cette vote pourrait représenter une difficulté pour expliquer leur appui et surtout les raisons pour lesquelles ils ont mis des choses partisanes avant l'intérêt et la sécurité du pays.
C'était l'ancien diplomate Brett Brune, président du cabinet de conseil Global Situation Room.
Avec vous dans Washington Forum, la 74e Assemblée générale annuelle de l'ONU se tient cette semaine à New York. Les chefs d'État vont aborder les grands sujets du moment, l'environnement, le développement durable, la réduction de la pauvreté et les migrations, avec le climat, l'insécurité dans le Sahel, la crise libyenne, entre autres. L'Afrique sera de nouveau au centre des débats. Le bloc africain réussira-t-il à faire de ces dossiers une priorité? Où en est-on avec la réforme de l'ONU? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La diaspora mauritanienne aux États-Unis a manifesté cette semaine devant le siège des Nations Unies à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Objectif, prendre à témoin la communauté internationale tout en rappelant au nouveau président Mohamed Ould Ghazouani l'obligation de tenir deux de ses promesses de campagne. Joint à New York par Irénée Herman Ungbo, l'un des manifestants mauritaniens, Bakary Tandja.
Lors de son investiture, il a promis d'être le président de tous les Mauritaniens. Il a promis d'assurer l'harmonie sociale et l'unité nationale. Et nous, en tant que noirs de la Mauritanie, victimes de graves violations des droits de l'homme, nous lui demandons de prendre certaines actions qui sont la condition sine qua non pour réaliser l'harmonie en Mauritanie.
Quelles sont ces actions que vous attendez du nouveau président, justement?
Nous demandons une réponse effective aux tueries de 1991. Nous demandons le retour des déportés, nous demandons l'application des lois anti-esclavagistes et nous demandons à ce que tous les Mauritaniens soient recensés et aucun Mauritanien ne doit être privé de sa nationalité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui devant le siège des Nations Unies. Je vais demander à la masse de répondre. Est-ce que vous voulez la justice? Yeah! Est-ce que vous voulez la justice? Yeah! Est-ce que vous voulez la justice? Yeah! Quand est-ce que vous voulez la justice? Quand est-ce que vous voulez la justice? Est-ce que vous êtes prêts à continuer la lutte? Est-ce que vous êtes prêts à continuer la lutte?
Une chose est de manifester. Est-ce que vous avez l'opportunité de rencontrer le président?
Nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer, malheureusement. Et c'est pourquoi nous lui avons adressé une lettre ouverte qui énumère dans le détail les doléances que nous avons comme préconditions pour la justice sociale en Mauritanie.
Monsieur Tandja, pour terminer, le président vient à peine d'être élu. Ne serait-il pas judicieux de lui donner un peu de temps pour régler ce problème qui vous tient à cœur?
Non, en fait, cette manifestation n'est pas une manifestation de confrontation. C'est une manifestation de tirer son attention sur les deux promesses fondamentales qu'il a eues à faire, à savoir être le président de tous les Mauritaniens, à savoir assurer l'unité nationale. Donc, pour réaliser ces deux objectifs, il faut nécessairement qu'il prenne en compte les doléances de la communauté noire. Si, en tout cas, il nous montre des évidences de bonne foi qu'il va attaquer ces problèmes ou qu'il y ait un début d'exécution, nous sommes prêts à travailler avec lui parce que c'est notre problème.
Bakary Tandja, joint à New York. Toujours en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU, a signalé une rencontre intitulée « Le Mali et le Sahel » organisée par le secrétaire général Antonio Guterres. Elle porte sur les enjeux liés à cette région. Arzuma Compaoré a joint Mabinge Ngom, directeur régional Afrique de l'Ouest et Centrale du Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a initié cette rencontre à New York.
Comme vous le savez certainement, depuis 2018, nous avons mis en place un programme intégré, une stratégie intégrée du système des Nations Unies, donc pour accompagner les efforts actuels au niveau des pays du Sahel. Cette stratégie fait venir autour de l'organisation des Nations Unies, des institutions régionales, sous-régionales.
Et c'est quoi les enjeux stratégiques de cette zone du Sahel?
L'enjeu est très simple. C'est une zone actuellement en crise où des conflits violents sont en cours vers le Mali, le Burkina, donc dans le bassin du lac Tchad. C'est une menace qui dépasse, j'allais dire un peu, le Sahel. C'est une menace qui dépasse le continent. C'est une menace globale. C'est un enjeu géopolitique important sur lequel le secrétaire général des Nations Unies va discuter avec les chefs d'État et de gouvernement.
Alors, dans cet ensemble, le Mali semble être quand même une pièce importante. Dites-nous pourquoi.
Non, absolument. Le Mali, c'est pratiquement l'épicentre un peu de ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, il y a de cela 2-3 mois, avec l'équipe des directeurs régionaux, de nous rendre au Mali pendant 3 jours. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion également de nous rendre à Mopti, donc accompagnés du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Michel Sidibé. Nous nous sommes rendus compte un peu de la gravité de la situation, mais cette visite nous a permis également de voir qu'il y a un déficit extraordinaire en matière de ressources. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars pour faire face aux besoins humanitaires de cette région pour l'année 2019. Et au moment où je parle, je pense que nous avons environ 35% de ces ressources disponibles pour, en tout cas, sauver 15,3 millions de personnes en situation humanitaire.
Alors finalement, la situation dans le Sahel, est-ce que c'est surtout la crise humanitaire ou c'est la crise sécuritaire?
Il y a une crise humanitaire, il y a une crise sécuritaire, mais également il y a une crise de développement. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment un soutien des propositions que le secrétaire général des Nations Unies mettra sur la table en étroite collaboration avec les pays du Sahel.
Mabinge Ngom, directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale du Fonds des Nations Unies pour la population.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Algérie, un tribunal militaire a condamné à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État le frère du président déchu, Saïd Bouteflika, deux ex-chefs du renseignement et une chef de parti politique. Le verdict est tombé dans la nuit de mardi à mercredi après le second jour consécutif d'audience, alors que nombre d'Algériens pensaient que ce procès tant attendu et qualifié d'historique par les médias serait long. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint à Alger l'avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Maître Saïd Sali.
C'était un dossier expéditif car on n'a pas accès à tout le dossier. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de ce dossier. De l'avis des avocats même, le procès aurait été public, ce qui n'a pas été le cas. De l'avis même des avocats de la défense, le procès n'a pas assuré toutes les voies de recours pour les prévenus. Donc pour nous, en tant que Ligue des droits de l'homme, pour ce qui est des anciens dignitaires de l'ancien régime, nous avons bien sûr plaidé pour un procès équitable et on a vu comment le procès s'est déroulé dans des conditions vraiment expéditives.
Quelle est la raison qui pourrait expliquer ce qui s'est passé dans ce procès?
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris que c'était la justice qui devait faire prévaloir le droit, n'a pas été au rendez-vous, bien au contraire, c'était une justice qui était au centre d'un rééquilibrage au sommet au niveau du système algérien, alors que nous, bien sûr que nous voulons de procès équitable, nous voulons que la justice soit faite et nous voulons que les responsabilités soient établies concernant la gestion de l'ancien régime qui a été décrié par la population dès le 22 février, mais bien avant, donc les responsabilités sont avérées, mais nous l'avons dit, nous ne voulons pas de justice punitive, de justice sélective, nous voulons une justice qui doit prendre le temps de faire éclater la vérité et surtout de respecter le droit, tout le droit. Ces procès, comme tous les autres procès, en fin de compte, s'inscrivaient dans une tentation de faire calmer, de faire taire la rue, au détriment même de la révolution qui a prévalu ces jours-ci pour changer le système. Et vous le voyez même dans la rue, malgré la condamnation des anciens dignitaires du régime, la rue ne croit pas. La rue, à la limite, considère ça comme, je dirais, même un non-événement, parce que le problème c'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de tout un système. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, même la presse l'a relevé, autour de ce procès, on n'a pas entendu beaucoup de choses, voilà, concernant la gestion, concernant les responsabilités, concernant les scandales financiers, c'était pas ça qui est attendu lors de ce procès-là.
Est-ce que vous pensez que de telles condamnations vont calmer la rue?
De toute façon, ces procès ne vont pas atténuer l'exigence de la rue, ne vont pas, comme souhaité par le régime en place, calmer la rue. La rue demande aujourd'hui le changement du système, il demande aujourd'hui l'indépendance de la justice, une justice à même de faire la vérité et de juger selon le droit, mais pas avec des considérations de rééquilibrage ou carrément de revanche au niveau du régime. Ce qui se passe chez nous, nous sommes en révolution. Aujourd'hui, vous voyez que la rue n'est pas prête à lâcher. La rue demande le changement du régime, demande l'indépendance de la justice, demande la vérité, la responsabilité. Ces procès, comme d'autres bien sûr, vont continuer, mais la rue va continuer encore à exiger la vérité autour de tout ce qui s'est passé, mais aussi autour des scandales financiers, mais aussi autour de cette exigence de la restitution des biens délapidés, notamment tous les scandales liés à la corruption.
Maître Saïd Sali, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Kelvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.